Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Périgord littéraire. Alors, j'ai toujours sous les yeux le docteur Jean-Marie Cassozan, enfin pas le docteur, mais son livre « Histoire de la médecine en Dordogne, la préhistoire à nos jours » avec une préface du docteur Bernard Cazot, sénateur honoraire de la Dordogne, et c'est édité par les livres de Lilo en 2024. Voilà, donc c'est un livre tout récent dont j'ai eu la permission de commenter. Voilà, alors, il y a une quatrième de couverture, bien entendu, et je crois qu'on l'avait laissé sous silence la semaine dernière. Alors, bon, voici ce que nous dit donc cette quatrième de couverture. La santé a toujours été une préoccupation au niveau des dirigeants comme des individus, des thérapeutes préhistoriques, aux soignants actuels en passant par des druides celtiques, les médecins du Moyen-Âge, les apothicaires, les barbiers chirurgiens, les sorciers ou les rebouteux. Tous, dans la conception de leur époque, ont contribué à organiser un système évolutif de soins. La médicalisation de la société depuis le 2e siècle et les progrès thérapeutiques du 20e ont bouleversé le monde de la santé. La demande en soins de la société est immense, apparemment sans limite. Les acteurs de santé proposent des prises en charge de plus en plus diversifiées vers la santé, le confort et le bien-être, et les autorités à la fois régulatrices et financières peine à suivre l'évolution du système. La relation qui s'établit en Périgord entre les acteurs de santé et les demandeurs de soins, relation variable dans le temps, est l'objet principal de cet ouvrage. Alors, bien sûr, l'auteur, le docteur Jean-Marie Cazot, après des études de médecine à la faculté de Bordeaux et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de 1962 à 1978, a exercé en tant que pédiatre à l'hôpital de Périgueux, bon, donc de 1978 à 2009. Au moment de la retraite, il a entrepris des études d'histoire à l'université de Bordeaux-Montaigne qui ont conduit à un doctorat, en histoire contemporaine en 2018 intitulé « Trajectoire des acteurs et des structures dans l'organisation d'un système de santé en Dordogne de 1803 à 1939 ». Membre de l'Association historique et archéologique de Périgord, il a publié plusieurs articles dans le bulletin de la société se rapportant à la médecine. Alors, ce livre est très bien illustré, je le précise, et donc on a même la Vénus de l'Ocelle. Alors, on va commencer. Alors, il y a bien sûr quand même quelques médecins célèbres du 19e siècle. On va voir un peu qui sont-ils. Alors, il y a le docteur Henri Parot. Alors, il est né à Périgueux en 1811, un père pharmacien, rue Taillefer à Périgueux. Il est déclaré Pierre à l'état civil, mais se fera toujours appeler Henri. Il est une famille d'Aix-Sud-Œil qui donne un membre à l'Académie de médecine, la maladie de Parot. Il est un artiste peintre, deux cousins germains d'Henri Parot, études médicales à Paris, diplômé en 1833. Installation à Périgueux, sa compétence et ses relations lui assurent une bonne clientèle. Sa renommée grandit à la suite de ses interventions lors des épidémies de suette miliaire en Dordogne en 1835 et 1841 et 1842. Il se révèle un bon observateur clinique et un thérapeute efficace mais non conformiste et publie un fascicule sur son expérience à l'intention de l'Académie de médecine sur la suette miliaire. Nombreux postes administratifs, médecins de la prison, de l'hospice, du lycée, des chemins de fer, de la préfecture, président de la commission départementale d'hygiène, fréquente les salons de la préfecture où il côtoie le préfet Romieux, Albert de Cavimont, sous-préfet de Nontron, de Bergerac, puis préfet de la Dordogne, Léon Sauveroche, recteur d'Académie de la Dordogne, Louis Veuillot, journaliste débutant, et oui, Louis Veuillot a débuté ses articles en Dordogne, et le futur ministre Pierre Magne, marié à Marie Maigne, un fils unique, Jean-Baptiste Armand, né en 1848. Armand entreprend des études de médecine à Paris. Pendant le siège de Paris par les Prussiens, participe au service de santé et au cours d'une intervention de secours au Fort de Vannes, il est blessé et meurt 6 jours plus tard. Il est enterré dans un mausolée sur le terrain ne plus abri sur la route de Paris, à Périgueux, et où se situe la maison de campagne des Parot, pour la construction de nouveau hôpital de Périgueux avec Parot, fait un testament en 1877 en faveur de l'hôpital comprenant le terrain ne plus abri et cimetière. Il meurt en 1894, mais sa veuve, Madame Parot, garde l'usufruit de la maison ne plus abri pour créer un orphelinat de garçons portant le nom d'orphelinat Armand Parot. Elle meurt en 1898. Alors ceci est d'après le docteur Michel Duverger. On va continuer un petit peu cette lecture. Il y a bon, des plus connus, le professeur Léon Testu. Alors, né à Saint-Avit-Seigneur en 1848, scolarisé au séminaire de Beaumont du Périgord, puis orientation vers la médecine, professeur aux hôpitaux de Bordeaux, Lille et Lyon, il est un spécialiste d'anatomie humaine. Et son énorme traité d'anatomie fait toujours référence. Il étudie les restes osseux de l'homme préhistorique de Jean Sade à l'âge de la retraite. Il revient à Beaumont et poursuit ses travaux historiques, en particulier une histoire de Beaumont. Il lègue ses biens aux communes de Saint-Avit-Seigneur et Beaumont et à la Société historique et archéologique du Périgord. Il décède en 1925 à Codéran dans la Gironde. Alors ceci, c'est d'après le docteur Saint-Cyr, auteur d'une publication à La Chape. Alors bien sûr, il y en a bien d'autres. Il y a le docteur Ferdinand Linares. Alors, né à Limeuil en 1850, il est issu d'une famille médicale affectée en Algérie lors de son service militaire, il devient par concours médecin des armées et reste à Oran. Il étudie la langue arabe, populaire et littéraire, divers dialectes et la civilisation arabe. En 1877, le sultan du Maroc sollicite la France et le docteur Linares fait partie de l'expédition. Deux sultans du harem, le sultan Moulay Hassan sont gravement malades, il peut pénétrer le harem et soigner ses femmes à visage découvert, ce qui était rare à l'époque. Il soigne aussi le sultan, il le sauve de la fièvre typhoïde et devient un proche conseiller. Il demeure 15 ans auprès du sultan dans un rôle médical, mais aussi dans un rôle de conseiller politique tout en renseignant la France. Après 30 ans de service, le docteur Linares revient à Limeuil dans la maison familiale qu'il orne des nombreux cadeaux du souverain marocain. Il meurt en 1938, étant du côté français que marocain, il fut mis en avant son rôle dans la mise en place du protectorat. Oui, le Maroc était un protectorat français. Alors, il y en a bien d'autres. Il y a docteur Nicolas Jeanfort. Alors, il est né en 1785 à Fournial, paroisse de la Noyette. Alors, la Noyette, c'est proche d'Hautefort. Petite précision. Alors, son père est médecin à Périgueux. Nicolas Jean entreprend une étude de médecine à Paris. Il est interne à l'hôpital Saint-Louis en 1804 et il est arrêté pour avoir crié la liberté ou la mort sur le champ de Mars lors d'une remise des aigles par Napoléon. 4 jours après le sacre de l'empereur, il dit son admiration pour le général Moreau, inculpé peu de temps auparavant pour complot royaliste. Voilà. Alors je crois qu'il y a quelques écrits qui ont été faits là-dessus. Si vous les trouvez, c'est très intéressant. Alors je continue la lecture. Donc docteur Nicolas Jeanfort, les rapports de police le considèrent comme un exalté. Il est interné à Charenton. Son père fait le voyage à Paris pour une part transformer auprès de l'école de médecine de Paris son diplôme d'ancien régime en un diplôme de docteur en médecine. Et non de façon automatique un diplôme d'officier de santé, et oui, en raison de ses références et travaux d'autre part, sortir son fils de l'asile. Après un mois et demi à Charenton, Nicolas Jean revient à Périgueux sur surveillance policière. Il reprend ses études de médecine à Montpellier et il est diplômé en 1806. Il s'installe à Périgueux et participe à la prise en charge des malades de la fièvre espagnole. Alors c'est c'est le typhus exanthématique. À Périgueux et à Limoges, on retrouve sa trace comme spécialiste en ophtalmologie, praticien forain utilisant largement publicité, soi-disant oculiste de la duchesse de Berry, et il est mort à Périgueux en 1856. Et puis, bon, il y a bien sûr le docteur Samuel Pozzi. Samuel Pozzi, il y a tout au moins un gros livre qui a été édité sur sa vie. Alors, docteur Samuel Pozzi, alors c'est un chirurgien, gynécologue parisien et homme politique dans le Bergeracois, naissance en 1846 à Bergerac, fils de pasteur protestant, inscription en 1864 à la faculté de médecine de Paris, externe des hôpitaux en 1867, interne en 1869, moniteur d'anatomie en 1871, rencontre alors avec le comte de Lille et Paul Broca, directeur en médecine en 1873, agrégé à la faculté de médecine de Paris en 1875, c'est un beau parcours hein, tout ça, bon, chirurgien des hôpitaux de Paris en 1876, chirurgien des aliénés du département de la Seine en 1877, le matin à l'hôpital et l'après-midi en consultation à domicile. Alors, il a eu une vie mondaine et intellectuelle, orientation professionnelle vers la chirurgie gynécologique dont il devient une sommité mondiale. Et élu à l'Académie de médecine en 1896, conseiller général du canton d'Issijac, en 1894, présent à l'inauguration du nouvel hôpital de Bergerac, qui portera son nom. Sénateur de la Dordogne en 1898, maire de Saint-Aubin-d'Anquet en 1900, conseiller général du canton d'Issijac en 1907. Ça, c'est quand même un très bon parcours. Et il meurt en 1918, malheureusement assassiné par un ancien malade. Voilà, alors, on va continuer un petit peu cette lecture. Et puis, il y a, dans tous ces médecins, il y en a un particulièrement, qui est le médecin rural, poète occident, urbain, Pierre Boissel. Docteur Boissel, quand même, ses écrits sont connus. Ils ont été réédités il y a peu de temps. Alors, urbain, Pierre Boissel est né à Bouzens, commune du canton de Saint-Cyprien, en 1872, d'un père instituteur secrétaire de mairie. Après des études au lycée de Périgueux, il obtient le diplôme de docteur en médecine à la faculté de Toulouse. Il s'installe à Saint-Cyprien en 1890. Et son bilinguisme, langue occitane et français, est un élément majeur dans la confiance de la population de Saint-Cyprien au début du siècle. Il est élu conseiller municipal et s'intéresse à la réduction d'eau. Il participe à la guerre de 1914-1918 comme capitaine dans les hôpitaux du front. Et il est légèrement blessé. Puis médecin-chef de l'hôpital militaire de Limoges, sa vision baisse progressivement et de 1921 à 1937, deux de ses filles lui servent d'assistantes médico-chirurgicales et de chauffeurs automobiles. Après la Grande Guerre, docteur Boissel se met à l'écriture. Malgré la cécité progressive, il écrit des pièces de théâtre et de poésie quasiment exclusivement en langue occitane. Il arrête la médecine en 1937 et meurt en 1939. Alors, comment je pourrais dire, ça c'est Garrigue, Jean-Louis Garrigue, qui a écrit Pierre Boissel, 1872-1939, médecin pour être occitan, en série numéro 2, Art et Histoire en Périgord Noir, en 2004. Et vous pouvez le retrouver à la page 27. Alors bien sûr, il y a un dernier, peut-être un des plus connus, René Dujarric de la Rivière, est né en 1885 à Aix-les-Dunes. Il est une médicale, le conduit à Bordeaux, à Lyon, puis à Paris. Doctorat en 1913, il est interne des hôpitaux à l'hôpital de l'Institut Pasteur en 1910 et ne quitte plus l'institution. Secrétaire général de l'Institut Pasteur en 1941, puis sous-directeur jusqu'en 1959. C'est un chercheur biologiste, bactériologiste, virologue, mycologue. Il est membre de l'Académie nationale de médecine, président de l'Académie des sciences et président de l'Institut de France. Il participe activement à la conception du nouvel hôpital de Périgueux dans les moindres détails et préconise la construction d'un hôpital bloc dès les années 1930 en opposition aux hôpitaux pavillonnaires. Ce qui peut être considéré comme son titre de gloire scientifique le plus notable est la démonstration de l'origine virale de la grippe, dite espagnole. De la fin à la Première Guerre, les bactéries mises en évidence jusque-là ne sont que des surinfections. Pour cela, il s'inocule de sérum de grippe après le passage du sang dans les colonnes ne retournant pas le virus. Il a la grippe et 10 jours après, ses crachats de grippe sont badigeonnés dans sa gorge. Il ne fait pas la grippe, il est immunisé. Cela ouvre la voie à la vaccination antigrippale. Voilà, alors je vais arrêter là cette lecture. Et je voudrais quand même signaler les médecins quand même à Sarlat qui étaient quand même aussi très dévoués pour la population. Voilà, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.